Bonjour, aujourd'hui j'ai le plaisir de vous parler de l'empire Wassoulou de Samori Touré. Un empire qui n'a pas été très très long, mais qui est chargé d'histoire et qui est d'une importance capitale dans l'histoire de l'Afrique du 19e siècle. Samori Touré, le fondateur de cet empire, est né en 1830 et il a disparu en exil au Gabon, je crois, en 1898 et il est mort en 1900. Samori Touré appartient au grand peuple malinké. Les Malinké, c'est un peuple chargé d'histoire également, qui fait partie du grand groupe Mandingue ou Mandé, dans lequel on retrouve les Bambara, les Sénoufo, beaucoup d'autres peuples ouest-africains. Comme vous le savez, hein, quand un groupe est vraiment important, il finit par se ramifier en donnant d'autres petits groupes. C'est par exemple le même cas avec les Peuls, où on peut avoir des noms différents, les Fulfulde, les Fulani, les Toukouleur, les Halpoula, etc., etc. Donc c'est vraiment des très grands groupes. Si on regarde le cas des Yoruba, ou le cas des Swahili, ou d'autres grands groupes africains également, on voit la même chose. Donc ici, les Malinké font partie de ce grand groupe Mandingue. Le pays Malinké est situé dans la partie septentrionale de la zone soudanienne et de subguinéenne. Donc nous sommes ici dans les régions du Mali, de la Guinée, mais aussi c'est toute l'Afrique de l'Ouest. Hein. On retrouve de tout ce groupe au Sénégal, en Gambie, Guinée-Bissau, le sud de la Mauritanie, allant jusqu'au Burkina Faso, nord de la Côte d'Ivoire, touchant le Niger, Libéria, Sierra Leone. C'est vraiment l'Afrique de l'Ouest. Si on unifie ce groupe-là, on peut dire que c'est le groupe le plus important. Mais dans la mesure où il y a beaucoup de noms différents également, et puis il y a des variantes dans la langue, parfois les gens les différencient. Pour revenir donc à Samori, il faut rappeler que Samori Touré a eu une enfance qui n'a pas été facile, mais s'est montré un garçon très résilient, très intelligent, qui apprend beaucoup et qui va être intéressé par le métier de soldat avant de former son empire. C'est ça que nous allons montrer dans la première partie, avant de parler de l'empire lui-même, puisqu'il est question de parler du fondateur, Samori Touré. Donc il est le fils d'un notable malinké du nom de Lamfia Touré et d'une femme du nom de Sokona Camara. Comme je l'ai mentionné, Samori est né en 1830 dans la ville du Wassoulou, dont le nom est un peu long, Miniambaladougou. C'est ça le nom de la ville où Samori est né, Miniambaladougou. Cette ville se trouve actuellement dans l'actuelle Guinée-Conakry. C'est un peu comme l'histoire de Sundiata. Hein. Il est né à Niani, en Guinée-Conakry, mais fondateur de l'Empire du Mali. Et l'Empire du Mali est beaucoup plus important au Mali, par exemple, qu'en Guinée. Donc ici également, l'Empire de Samori Touré, comme on va le voir, il va déborder largement la Guinée-Conakry. Et très important au Mali. Ici, on va jusqu'en Côte d'Ivoire, touchant le Burkina, etc. Donc, pour revenir à Samori Touré, rappelons donc qu'il va être un grand chef militaire. Il commença sa carrière en tant que commerçant d'abord. Vous savez, il fait partie aussi de ces djoula. C'est un métier très répandu. Les djoula, c'est un peu des soninké qui avaient quitté l'empire du Ghana quand il a éclaté et puis qui étaient dans le réseau du commerce. Mais les djoula aussi se sont mélangés beaucoup avec le peuple mandingue. Finalement, et c'est pratiquement le même groupe, hein. Ils se comprennent, ils parlent la même langue. Mais quand quelqu'un fait du commerce en Afrique de l'Ouest, on dit qu'il est en Djoula. Même pour les langues qui ne sont pas les langues malinquées. Moi, je parle le poulard, mais je sais que dans le foota sénégalais, quand quelqu'un est un commerçant, oui, on dit que c'est en Djoulanke. Djoulanke, il y a le mot Djoula. Quand quelqu'un on vous dit que quelqu'un il commerce, le verbe commercer, ça se dit djoulade. Vous voyez, djoula. Il y a le mot djoula là-dedans, djoulade. Djoulanke, djoulade, etc. Donc vous voyez, c'est tellement répandu en Afrique de l'Est que ça déborde largement le groupe mandé. Même dans les autres langues, on peut le voir facilement. Rappelons aussi que les djoula sont un groupe donc, de commerçants itinérants, comme j'ai dit, depuis très très longtemps. Et leur origine, tantôt on dit malinké, bambara, soninké, mais c'est vraiment un peuple très 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 mélangé. On les trouve principalement aujourd'hui en Côte d'Ivoire, dans le nord, au Burkina Faso, au Mali et dans tous les pays donc, qui faisaient partie de la zone correspondant à l'ancienne aire d'influence du Mandé, dont ils sont originaires. Mais le Mandé est sorti aussi du Ghana, comme on le sait. Ils ont été des acteurs clés du commerce en Afrique de l'Ouest, à tel point que dans plusieurs langues ouest-africaines, comme je viens de l'expliquer, on retrouve leur nom. Durant son enfance, son adolescence d'abord, Samori va se démarquer. Il va se démarquer par un événement très important. En fait, le jeune homme va être forgé à vivre une expérience qui va le troubler un peu, mais aussi qui va le former. En effet, vers 1848, il n'était plus adolescent, il était quand même, il rentrait dans l'âge adulte, mais l'âge adulte européen, puisqu'en Afrique, l'âge adulte, c'est pas 18 ans, hein, comme on le pense. L'âge adulte en Afrique, c'est un autre âge, parfois ça commence dans 21 ans par exemple. Et puis il y a des cérémonies comme la circoncision ou d'autres choses, en tout cas dans l'Afrique traditionnelle. Je ne vais pas trop rentrer dans ces détails ici, ce n'est pas le plus important. Mais en 1848, à la suite de la capture donc, de sa mère, au cours d'une guerre par Sori Birama, du clan des Cissé, Samori s'engage au service des Cissé comme soldat afin d'obtenir sa libération. Donc il veut libérer sa mère et pour lui, la seule occasion qu'il peut faire, c'est d'être soldat auprès de Birama. Et plus tard, il va négocier pour libérer sa mère. Donc, c'est les Cissé. Samori va apprendre le métier des armes. Il complète son instruction coranique. Il va apprendre le Coran et plus tard, il trouvera une occasion donc, de s'enfuir avec sa mère après pratiquement 7 ans de service. Donc, le temps de se montrer confiant et puis d'apprendre des choses et de tromper la vigilance et puis il est parti avec sa mère. Au cours de son séjour, c'est les Cissé, donc Samori, allait très tôt réaliser découvrir que sa vocation, c'est finalement celle d'un soldat, hein, d'un guerrier, quelqu'un qui veut vraiment construire quelque chose de très important. Mais aussi, il était un commerçant. Donc, ses talents de soldat furent remarqués par tous. Son courage et sa hargne ont été salués par ses chefs militaires. De son retour chez lui, donc, Samori décide de s'engager dans l'armée. Il entame sa nouvelle expérience militaire pendant 2 ans dans l'armée de Bérété. Des Bérété, donc c'était un clan aussi des Malinké. Donc ces Bérété, eux, ils étaient les adversaires des Cissé. Donc Samori fait exprès pour aller s'engager là-bas. Ils font donc faire appel à ses compétences, mais aussi sans doute pour dévoiler un peu les secrets des Cissé qui sont leurs ennemis. En 1861, Samori se trouve seul et traqué. Il dit ainsi commencer sa carrière personnelle dans le dénuement le plus total. Par la suite, il est nommé chef de guerre. En langue malinké, on appelle ça le Kéletigui. Au cours d'une cérémonie durant laquelle il prête serment et promet de protéger son peuple contre les agresseurs, donc les autres clans, à savoir les Bérété et les Cissé. Donc Samori jure de protéger son peuple contre ces attaques-là. C'est dans ce contexte donc de besoins sécuritaires et de prise de conscience des dangers qui guettaient son peuple que Samori prit la décision de créer une armée de métiers pilotée par des hommes en qui il a une extrême confiance. En plus du métier de soldat et celui de commerçant dont nous avons rappelé, qui était en quelque sorte, comment on peut dire ça, des marqueurs identitaires, c'est Samori. Un autre élément important, c'est la religion musulmane. L'islam est un élément très très important qui a participé grandement au façonnement de la personnalité de Samori. En effet, lors de son séjour chez Birama, c'est là où il entra en contact avec l'islam. On a dit qu'il a appris le Coran. Et cette religion était pour lui et pour de nombreux habitants à son époque et encore aujourd'hui en Afrique de l'Ouest, à la fois une raison et un moyen de vivre. Grand fervent et pratiquant, Samori intégra la religion musulmane au cœur de ses actions, notamment en politique. À ce sujet, il suivit les traces des grands souverains depuis le Moyen-Âge africain qui avaient mis l'islam au cœur de leurs actions politiques et entrepris des pèlerinages. On peut parler des pèlerinages de Mansa Moussa, du Mali, de l'Empire du Mali, ou encore d'Askia Mohamed, de l'Empire du Songhai, etc. Cet aspect a été évoqué dans beaucoup de livres, hein, ces grands pèlerinages. Je ne veux pas y revenir. Alors, quand Samori devient le grand souverain des Wassoulou, il prit le titre de Al-Mami. Al-Mami, et ça, je pense qu'il fait référence aux Al-Mami du Fouta Dialon, qui avaient consulté une théocratie musulmane. Et il y avait aussi les Al-Mami du Fouta Toro depuis 1774. Et même avant eux, les Al-Mami du Bundu, hein, un peu à l'est du Fouta Toro, dans l'actuel Sénégal. Donc, le titre de Al-Mami, ce n'était pas quelque chose de nouveau que Samori a inventé, mais il l'a pris des théocraties musulmanes. Mais aussi sa volonté d'avoir un grand empire, il veut s'inspirer des exploits de l'empire du Mali depuis Soundiata Keïta. Donc il connaît l'empire du Mali, mais aussi il connaît les empires théocratiques musulmans. Il veut, à partir de là, mettre l'islam en avant pour véritablement constituer quelque chose de très très important. C'est dans cette perspective que Samori s'efforça jusque vers 1885 de convertir les populations à l'islam, utilisant la religion comme un puissant facteur d'intégration et d'unification des populations de son empire progressif. C'est aussi dans cette logique qu'il s'adressa contre ses envahisseurs étrangers et leurs alliés locaux. Sur ce point, il faut noter que Samori n'est pas le premier ni le dernier à puiser dans la religion les ressources nécessaires pour créer une unité, une société soudée ou une force politique et même économique. En effet, au cours des siècles derniers, et même pendant depuis très longtemps, la religion a été toujours un instrument majeur. Après avoir converti des peuples, les contrôler au maximum, mais surtout, la religion a été utilisée comme un instrument de colonisation, de peuplement aussi. Hein. C'est ainsi que, par exemple, l'islam s'est répandu de l'Arabie à l'Atlantique ouest africain, allant jusqu'en Indonésie, aux Philippines, en Malaisie, passant par l'Andalousie, en Espagne, au Portugal, etc., jusqu'au Caucase russe. Et dans certaines régions conquises, donc on va voir que l'islam a permis aux conquérants de reprendre le contrôle politique et créer des États à leur image. Comme par exemple, on a des pays du Maghreb aujourd'hui qui se disent des pays arabes, mais c'est en réalité cette colonisation de peuplement, c'est des gens qui sont venus de l'Arabie, du Yémen, avec l'expansion musulmane. Avant cela, des pays comme l'Égypte, l'Algérie, le Maroc, la Tunisie n'étaient pas des pays peuplés par des Arabes, c'était des Berbères et des populations noires d'Afrique qui y habitaient. Bref, c'est une parenthèse. Mais aussi, on peut parler de ce qui s'est passé du côté des Européens, où la religion chrétienne, le catholicisme, le protestantisme et toutes les autres branches du christianisme ont accompagné les explorations au 15e, des 15e au 19e siècle. Donc, tous les territoires où ils ont dominé ont été systématiquement convertis au christianisme, faisant de cette religion la plus importante aujourd'hui dans le monde. Hein. Donc, vous voyez, ce que les Samori ont fait en Afrique de l'Ouest, s'appuyer sur la religion, c'est pas quelque chose de nouveau. Hein. Et puis, c'est pas aussi comme on le voit aujourd'hui, en prétexte de les dire que c'est des djihadistes, etc. Non, c'était quelque chose qui se faisait à leur époque, même si ça ne se fait pas aujourd'hui. Aujourd'hui, on crée des États avec la technologie, le savoir, les sciences, etc., les élections et tout. Mais à leur époque, la religion était très, très importante. Et c'est ça qu'ont fait les Européens, c'est ça qu'ont fait les Africains. Et puis, toutes les grandes civilisations qui étaient faites, ils ont mis de la religion en avant. C'était très important de préciser cela, parce qu'il y en a qui ne comprennent pas l'élément religieux dans la création des États. Alors là, on va passer à l'armée de Samori et l'exploitation de son empire. Les campagnes expansionnistes de Samori visaient plusieurs objectifs. En premier lieu, ses voisins et notamment les adversaires et membres des clans Bérété et Cissé. Le deuxième objectif était de s'emparer de la totalité du Wassoulou pour faire de ce territoire la base arrière de son empire. Le Wassoulou est situé sur les pays ouest-africains actuels de la Guinée et du Mali. À son apogée, l'empire du Wassoulou s'était étendu sur une partie de la Côte d'Ivoire actuelle, du Libéria à la même chose Sierra Leone. Le troisième objectif de Samori était de mettre la main sur les régions minières et stratégiques qui avaient fait la prospérité des grands empires ouest-africains médiévaux, à savoir les régions du Bouré, du Bambouk, les fameux pays qui étaient décrits par les géographes arabes comme les pays de l'or. Donc Samori prit possession des mines d'or du Bouré en 1878. Son emprise sur les régions conquises était suffisamment forte pour qu'il puisse se déclarer Fama. Fama ici c'est le souverain, hein, ça veut dire l'homme qui tient le pouvoir, l'autorité du chef militaire. Aujourd'hui l'armée du Mali s'appelle le Fama, les forces armées maliennes, mais aussi c'est un clé d'œil à Fama de Mandeï. Vers la fin des années 1870, au sommet de sa puissance, Samori, qui avait réussi grâce à l'unité religieuse et à la mise en place d'une armée bien organisée et nombreuse, et aussi grâce aux armes modernes acquises chez les Européens, notamment c'est les Anglais qui étaient installés sur les côtes de l'Atlantique, par exemple en Sierra Leone ou en Gambie, et ailleurs dans d'autres régions. Donc Samori a conquis la ville très stratégique de Kankan. Kankan se trouve dans l'actuelle Guinée, c'est dans la région Haute Guinée, un pays malinké. C'est aussi une ville chargée d'histoire, hein, depuis l'Empire du Mali. La ville de Kankan est souvent citée. Samori Touré mit la main sur un centre commercial clé des Djoula et plusieurs régions de ce qui constitue aujourd'hui la Sierra Leone, la Guinée, le nord de la Côte d'Ivoire, dont le roi est malinké de Kabadougou. En 1881, Samori avait déjà fait de la partie méridionale des savanes soudanaises tout au long de la grande forêt ouest-africaine entre le nord et l'actuelle Sierra Leone et la rivière Sassandra en Côte d'Ivoire, un empire unifié sous son autorité. Et c'était vraiment un empire incontesté. Avec pour capitale la ville de Bissandougou, qui servit pendant longtemps, même si Samori a à un moment déplacé sa capitale, comme on va le voir plus tard. L'empire de Wassoulou de Samori était divisé en 162 cantons regroupés en 10 gouvernements. Chacun de ces gouvernements était dirigé par un proche parent ou un homme de confiance ou un de ses lieutenants. Ce dernier, c'était un officier militaire, devait être un officier militaire, mais aussi être assisté d'un chef de guerre chargé du commandement des troupes. Ici, on parle de marabout parce que c'est un érudit qui doit avoir quand même les connaissances de la loi islamique et des textes de justice. Ça aussi, c'était un des critères. Dans chaque gouvernement, il plaça des gens d'origine différente dans le but de favoriser la diversité ethnique, la cohésion sociale et l'intégration pacifique de toutes les populations des territoires annexés dans son empire. Il a réalisé l'importance de cette stratégie à la suite de son expérience des divisions claniques. C'est les Bérété, les Camara et les Sissé. Hein. Quand il était jeune, il a vu ces différences-là et ces rivalités. Donc, c'est ce qui a marqué sa jeunesse. Pour éviter cette division sociale qui peut affaiblir son empire et son armée, Samori entreprit de tout faire pour effacer le souvenir des anciennes divisions familiales et tribales. Afin de subvenir aux besoins du gouvernement, chaque village devait cultiver un champ, ça peut être un champ de mil, un champ de sorgho, etc., au profit de Samori et qui percevait aussi la dîme sur de l'or. Donc ça, il fallait avoir un peu de récolte pour nourrir les âmes, avoir aussi des richesses à travers l'or. L'une des plus grandes réussites de Samori, c'est d'être en mesure de créer une armée puissante qui sera la force de l'expansion de son empire. Beaucoup d'historiens, notamment les grands spécialistes de l'Afrique de l'Ouest et notamment de Samori, voient en lui un grand stratège militaire qui a réussi à mettre en place une armée forte, courageuse et moderne, appuyée par des soldats de métier, recrutés et formés de façon sérieuse et professionnelle. L'armée de Samori Touré était divisée en deux corps, à savoir l'infanterie connue sous le nom local de Sofa. Aujourd'hui, on parle de Sofa de Samori. Cette armée était forte de 30 000 hommes en 1887 et on parle même de 35 000. Il avait aussi la cavalerie qui ne comptait pas moins de 3 000 hommes, donc des jeunes garçons très très bien à monter les chevaux et à faire la guerre avec les chevaux. C'est ça sa cavalerie. Il y avait aussi l'infanterie qui était divisée en unités permanentes de 10 à 20 hommes dites de les C, hein, ou les Koulou. C'est comme des tas, des petits groupes en fait, commandés par un chef. Le chef, on l'appelle le Kuntiki. Hein, 10 C formant le Mbolo, par exemple, donc, qui sont placés sous le commandement des Bolontigi. La cavalerie était divisée en colonnes de 50 hommes qu'on appelait les Serré. Les Bolos, principales forces offensives, se déplaçaient sous l'escorte donc, de ces Serré. Comme il s'agissait d'unités permanentes, il s'établissait des liens d'amitié d'abord entre les soldats et de loyauté à l'égard de leur chef. Cette armée, bien entraînée et disciplinée, ne tarda donc pas à prendre un caractère quasi-national en raison de son homogénéité très remarquable et de son esprit de corps. La carte de Samory aussi est importante à visiter, même si parfois on voit quelques changements selon les époques. C'était un très grand empire. Avant d'acquérir des armes, et des armes, quand je parle des armes, dont je veux parler des armes plus sophistiquées des Européens, des commerçants européens, comme par exemple les fusils, les armes de guerre, etc. Samory donc demandait à ses forgerons de fabriquer des armes, mais aussi il achetait des armes européennes qui essaient de copier des modèles ou bien de les réparer comme quand ils sont usés. Et il avait de très bons forgerons aussi qui apportaient leur savoir-faire. Ces derniers donc étaient capables de réparer non seulement les armes achetées avec les étrangers, mais aussi de fabriquer des armes artisanales. Mais avec la possibilité d'obtenir plus d'armes européennes, plus modernes, et souhaitant les étudier attentivement afin de les reproduire, Samory donc accentua sa collection d'armes européennes et demanda aux forgerons de plus trouver des armes à réparer ou des choses comme ça, que les armes artisanales. C'est ainsi qu'à partir de 1885, il décida de remplacer les sachepots dont les cartouches trop volumineuses étaient vite abîmées par l'humidité de la région. Il les remplace donc par des fusils grands mieux adaptés au climat avec leurs cartouches plus légères et les Kropatschek, les fusils gras à répétition. Il va disposer d'équipes de forgerons capables de les copier dans les moindres détails. À partir de 1888, il fit également l'acquisition de quelques fusils à tir rapide et en 1893, il disposait d'environ 6000 fusils. Toutefois, il ne disposa jamais de pièces d'artillerie. Ses armes furent acquises grâce à la vente de l'ivoire et de l'or extrait des vieux champs aurifères du Bourré au sud du pays et à l'échange des produits avec les royaumes ouest-africains ou avec le monde musulmans comme les chevaux qui sont venus de loin, mais aussi d'autres produits du Sahel et des pays Mossi. La puissante armée de Samory Touré était non seulement bien équipée, mais également constituée de soldats de métier, de vrais professionnels. Fort de ces avantages, Samory décide de résister farouchement à la pénétration coloniale. Un des points forts, et Samory est connu dans l'histoire africaine comme étant un des plus grands résistants contre la colonisation. Et je pense qu'il faudrait une autre vidéo, pour parler uniquement de Samory en tant que résistant. Ici, nous allons nous cantonner uniquement à l'empire du Wassoulou. Et je vais conclure sur le Wassoulou en disant que cet empire, donc, du Wassoulou que Samory a mis sur place en tant que Al-Mami, chef religieux militaire incontesté, est un des plus grands empires de l'Afrique du 19e siècle. Il a défait plusieurs fois l'armée coloniale française, mais aussi a battu beaucoup d'autres souverains locaux et a pu agrandir son empire. Il a fallu une coalition entre les forces françaises et britanniques ainsi qu'une alliance avec d'autres rois africains. Par exemple, ces rois que Samori avait voulu convertir à l'islam et qui n'étaient pas, se sentaient pas en sécurité avec lui, certains se sont alliés aux Français pour lui combattre, pour lui faire la guerre. Donc c'est cela qui a permis de capturer Samori par surprise et il va être capturé par le capitaine Gouraud. Hein, je vais y revenir encore en parlant de sa résistance. Comme le disait un historien moderne, sa capture allait mettre un terme à la plus longue série de campagnes contre le même adversaire dans toute l'histoire de la conquête française du Soudan. L'un des adversaires, de ses adversaires les plus redoutables, le général Albert Baratier, avait ouvertement reconnu la puissance de Samori et de son armée et n'hésitait pas à déclarer en son endroit. Il n'est pas exagéré de dire que Samori s'est montré supérieur à tous les chefs noirs qui ont été nos adversaires sur le continent africain. Il est le seul ayant fait preuve de qualité, caractérisant un chef de peuple, un stratège et même un politique. Conducteur d'hommes, en tout cas, il le fut, possédant l'audace, l'esprit de suite et de la précision, et par-dessus tout, une ténacité irréductible, inaccessible au découragement. Donc voici ce que disait Baratier sur lui. Mais comme je dis, nous allons consacrer entièrement une émission sur Samori en tant que résistant dans la deuxième moitié du 19e siècle africain pour en fait citer les combats qu'il a eu à faire contre les colonisateurs, etc. Ces dernières 20 années du 19e siècle africain. Pour le moment, nous allons nous arrêter ici en ce qui concerne l'empire mis en place par Samori Touré, qu'on appelle le Wassoulou, qui se trouve aujourd'hui dans le sud-ouest du Mali, en Guinée aussi, donc habité par des Malinké, mais aussi des Peuls et d'autres peuples africains. Voilà. Merci beaucoup et bonne journée.